à voix nue. Toute cette semaine, Stéphane Delie-Georges rencontre Claude Lorius. Ce soir, trois articles scientifiques et le rôle de l'homme sur le réchauffement climatique.
Claude Lorius, ben nous voilà dans l'antépénultième station auprès de vous. Alors nous sommes venus vous retrouver, toujours bien sûr au pied de ce massif de Veldone, et très exactement à Saint-Nazaire, les M, où vous habitez. C'est un endroit que vous habitez depuis longtemps, Claude Lorius?
Oui, une bonne trentaine d'années, je dirais.
Et la proximité de ces montagnes, ça vous plaît, je suis sûr?
Ben, ce que j'aime boire, c'est la neige, un peu de glace... Les saisons, les éclairages selon le soleil et un regard qui n'a pas beaucoup de limites, je dirais.
Ouais. Bon. Et vous aimez ça, quand un regard n'a pas de limites, hein. On l'a bien compris aussi.
Oui, vous savez bien que les limites, on en a dans notre tête. Mmh. Et des fois, c'est bien de regarder les choses comme ça. Je trouve que ça aide à penser. Et j'aime réfléchir dans cette véranda.
Alors je vous propose à nouveau, puisqu'on était resté dans notre entretien d'hier, sur un certain nombre de résultats scientifiques importants, issus bien sûr des carottages, je vous propose qu'à nouveau, on redonne quelques petites caractéristiques de l'Antarctique, parce que on pourrait passer encore beaucoup de temps, tellement ce continent blanc est immense, avec des points extrêmement singuliers. Je peux rappeler simplement, et vous rajouterez ce qui vous semble nécessaire, Claude Lorius, 30 millions de kilomètres cubes de volume de glace. Et là, il y a une comparaison, c'est exactement comme si on avait 25 fois la surface de la France avec une couche de glace de 2 kilomètres. Ça donne une petite idée quand même.
Oui, c'est l'Europe en fait aussi. Hein.
Oui. Alors, il y a un point évidemment... On a vu que Domsay en était un, on a vu que Vostok était aussi bien sûr un point singulier, mais il y a un point qui, dans la zone de la fosse de Bentley, là encore j'ai relevé ça, il y a, semble-t-il, une sorte de record, parce que la glace ferait 2550 mètres au-dessus de la mer. Pouh, là encore. Quelle lente patience, comme vous dites, pour que lentement ces neiges s'entassent, se compactent et puis se transforment en glace.
Oui, c'est une longue histoire et au fond d'un forage actuellement, on a de la glace qui s'est formée, je sais pas, un million d'années. Il y a un million d'années. Oui. Voilà.
Alors il y a autre chose aussi qu'on pourrait rajouter, parce que moi je l'ai éprouvé de façon un petit peu directe. Vous l'avez éprouvé mille fois. C'est quelque chose que on comprend que peut-être quand on a subi ces vents, un certain nombre de ces vents très très puissants, en particulier dans des situations froides. Alors j'ai relevé la chose, quand on est dans une situation où il fait moins 30, Claude Lorius, si le vent passe à 30 km à l'heure, il fait moins 55 d'un seul coup, et hop. Et puis si le vent se met à souffler à 100 km heure, et vous en avez connu des vents de ce type, eh bien cette température qui était de moins 30 au début, cette fois est à moins 70. On voit que la variabilité selon ce paramètre est terrible.
Oui, en fait, ce n'est pas la température qui change. C'est l'échange entre notre corps, oui, et la température, l'impression. D'ailleurs, maintenant, la météo utilise cette notion de température ressentie. Et c'est sûr que ça croît comme le carré de la vitesse du vent.
C'est ça.
Et c'est la perte d'énergie de notre corps, sans parler bien sûr du fait que l'horizon s'obscurcit, il y a plein de neige, on ne voit plus rien, et c'est la tempête. La température ne change pas, mais le ressenti que nous en avons, ça c'est vraiment ça. Le vent d'abord.
Oui. Alors j'ai apporté... Une d'un journal bien célèbre, une que vous connaissez par cœur, ça vous fait sourire, Claude Lorius. D'abord, je peux un peu la décrire parce que c'est le journal Nature, on en a dit un mot hier. La lettre est en est jaune Et puis, sur ce fond jaune écrit au bleu, on dit en imprimerie, donc du bleu au jaune, il y a cet indice du titre de une. 160 millions d'années, c'est le record, en tout cas des relevés concernant le CO2 et l'histoire du climat. Et puis, il y a une photo sur cette une de Nature, qui date de 1987, c'est Vostok. Ça fait un peu usine, hein, sur cette photo. Usine du bout du monde, mais...
Ah oui, j'avais jamais regardé ça comme ça, mais d'abord on parle de 160 000 ans et non pas de 160 millions d'années.
Oui, bien
et
sûr.
160 000 ans, ça veut dire c'est un cycle naturel. On est passé d'un climat très froid à un climat très chaud.
C'est ça.
Et on a le climat très chaud précédent il y a 120 000 ans. Hein, donc l'histoire climatique d'un cycle naturel complet.
Alors, elle est hautement, d'une certaine façon, hautement symbolique, cette une de Nature du 1er octobre 1987, Claude Lorius. Parce qu'il y a trois articles auxquels êtes bien évidemment liés. Il y en a trois.
Ah ben, c'était moi le chef, il peut toujours s'imposer, hein, signer partout. Mais non, c'est vrai que la découverte, à l'époque, c'est le fait que le climat soit lié à la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique. Et c'est ça vraiment qui était une révolution. Les physiciens s'en doutaient depuis longtemps, mais personne n'avait jamais eu à la fois un enregistrement de la température et de la composition de l'atmosphère. Ça, ça a été le miracle que l'on a trouvé dans les glaces.
Oui. Alors, trois articles, j'ai traduit leurs titres, évidemment, de façon un peu abrégée, mais le premier concerne donc l'histoire continue de cette fameuse température isotopique qui a permis de voir entre les différents isotopes la composition donc des glaces, de l'eau, ainsi de suite.
Et d'en déduire la température.
C'est ça, voilà. Pour ce qui est des 160 derniers millénaires. Passés. Voilà,
millénaires.
Oui, oui, pas milliards, non, quand je vais faire attention à moi. Deuxième article, il est strictement connexe hein, aussi aux autres. Cette fois, c'est plus précisément le gaz emprisonné dans les glaces et donc cette carotte de Vostok qui, en plus, révèle, encore une fois, 160 000 ans de l'histoire du CO2, ce fameux carbone qu'il faudrait rajouter au méthane pour avoir les éléments chimiques les plus importants qui conduisent à ce fameux effet de serre et donc évidemment du réchauffement de notre planète. Et puis le dernier, ça vaut le coup de les passer en revue parce que celui-là aussi est hautement symbolique. C'est donc à nouveau cette fameuse carotte de Vostok, hein, le Vostok Ice Core. Et là, cette fois, c'est donc la réponse du climat aux variations du CO2 et l'étude du forçage orbital dans le dernier cycle climatique. Alors, un petit mot de définition pour ce qui est de ce forçage orbital, qui est votre vocabulaire technique. Est-ce que je peux dire que c'est les variations que connaît la Terre dans ses différentes orbites et donc ses déplacements autour du Soleil qui est soumis à un certain nombre de variations?
Oui, effectivement, la source des variations climatiques naturelles, en tout cas depuis le Quaternaire, c'est la balade de la Terre autour du Soleil qui décrit une ellipse plus ou moins aplatie, qui s'éloigne, qui se rapproche du Soleil. Il y a l'axe de rotation de la Terre qui a des inclinaisons différentes, qui fait que l'énergie que la Terre reçoit change de façon naturelle. Et ces changements de température naturelle entraînent de faibles variations du CO2. Le climat change, le CO2 change. Par exemple, de façon très simple, parce que un océan plus froid va dissoudre plus de CO2 qu'un océan qui est chaud. Donc, variation naturelle du climat, variation induite de la teneur en CO2, mais qui n'ont rien à voir quant à leur amplitude avec ce que l'on observe depuis deux siècles.
Et donc, concernant en tout cas ces deux articles précédents et plus le troisième, donc, qui est une sorte de synthèse d'ailleurs des deux autres. J'observe les signatures, Alors tiens, je retrouve les deux compères, bien sûr, Laurius et Jouzel, et puis bien sûr Barmola, Reynaud, Genton, c'est le CEA, et puis c'est encore Grenoble. Et puis, les trois derniers noms sont soviétiques. Ce sont des Russes, en tout cas, et sont soit d'un centre qui est d'études polaires, je crois bien, Claude Laurius, qui est à Saint-Pétersbourg, et puis aussi de l'Académie des sciences, avec Kotliakov. Les trois sont des gens avec qui vous avez noué amitié aussi.
Oui, mais les liens très forts étaient d'une part avec Kotliakov. On s'est rencontrés souvent, il est venu ici, et il avait beaucoup de pouvoir, c'est vrai. Il était à l'Académie en Russie, il dirigeait l'Institut de géographie. Et donc là, c'est une amitié continue qui a duré des années et puis ne figure pas là-dedans, effectivement, le nom de mon ami américain qui va intervenir un petit peu plus tard et qui fera partie des signataires des papiers qui auront trois nationalités.
Oui, et donc on vous retrouvera à ce moment-là. Bon, évidemment, vous avez suivi obligatoirement le parcours. Lorsque l'on rédige un article scientifique que l'on adresse à une revue dite à référé, il est donc soumis à la critique, à l'évaluation de vos pairs, de ceux qui ont la compétence dans la discipline, et c'est quand on obtient leur blanc-seing, d'une certaine manière, que, à ce moment-là, l'article est publié dans une de ces revues, encore une fois, dites à référé. Vous avez été dans quel sentiment quand les choses sont sorties, vous et vos amis? Est-ce que d'avoir la une de Nature, c'est quand même, évidemment, quand on fait ce métier, le vôtre de chercheur, toute discipline confondue d'ailleurs, c'est quand même très très important.
Oui, on a mis d'ailleurs beaucoup de temps pour rédiger, parce que comme il y a beaucoup de noms finalement différents, donc faut quand même faire les choses en accord. Ensuite, faut effectivement, il y a un comité de lecture qui consulte des gens dans le monde entier. Et on nous dit, oui, mais là, il y a ci, il y a là. Bon, on rédige, on corrige. Des fois, c'est intelligent, des fois, ça l'est moins. C'est ce qui fait la différence essentielle, je crois, entre ceux qui parlent du climat et qui parlent du climat parce qu'ils ont lu un bouquin ou publié un roman chez un Cheki. Ça, c'est pas scientifique. Ce n'est pas un travail reconnu par la communauté scientifique.
Oui.
Et donc, nous, faire la couverture, avoir ces trois papiers, c'était vraiment un événement qu'on a très fortement ressenti et qui nous a ouvert beaucoup de portes. Quelques années plus tard, on fera une autre couverture, cette fois dans la revue American Science,
oui,
qui est aussi
l'autre aussi importante.
Voilà,
que Nature.
Alors avec ça, moi, je vais pouvoir partir en retraite.
Tranquille de ce point de vue, quoi.
Oui, c'est vrai, parce que c'est la satisfaction qu'on a d'être reconnu. Et voilà, on a une espèce de quitus,
oui,
de la communauté.
Et on peut de toute façon remarquer aussi, c'est quand même comme une sorte de signe et d'appel très fort, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire que, un, il y a évidemment les résultats scientifiques, ils sont là, et validés par le meilleur système, revue à référer, et puis aussi il y a un appel ou un signe en tout cas. Nous avons observé un réchauffement, nous avons repéré une tendance au réchauffement, nous allons pouvoir peut-être faire des évaluations des climats à venir, avec la modélisation appuyée par les travaux en particulier de Jean Jouzel, mais d'autres. Donc, on connaît le passé, on voit le présent, et on peut essayer de subodorer, au risque et péril, l'avenir.
Oui,
c'est ce qui se passe à ce moment-là aussi.
Oui, mais vous voyez bien qu'on entre dans un autre monde. Et vous voyez bien que les implications, quand on dit il faut réduire les émissions de CO2, de gaz carbonique, vous savez bien qu'on rentre dans un autre monde, oui, dans lequel nous n'avons pas de position forte, un, oui, monde de la finance, un monde des décideurs qui n'est pas le nôtre et qui, dans le fond, et je dirais même que, à part des gens comme Rocard, je veux dire, la sensibilité des politiques a été nulle. Quand je vois, moi, les mots que j'ai adressés il y a 25 ans, donc c'est là que s'arrête notre potentiel. Et c'est là que nous, on se dit que c'est grâce à des gens comme vous qui s'adressent à un plus grand public. C'est un tout petit peu aride de lire ces papiers, c'est vrai, mais vous savez rendre accessible ce dont on parle pour le grand, entre guillemets, public.
Oui.
Et c'est vrai qu'on dépend beaucoup. Je crois que c'est les médias qui peuvent nous aider et qui ne le font pas assez en général.
Oui. En tout cas, là, de ce point de vue, les journalistes scientifiques, dans leur majorité, je peux m'y inclure, évidemment, puisque assez tôt, moi, très tôt même, j'ai invité Jean Jouzel à ce même micro auquel vous adressez aujourd'hui. Je vous ai invité aussi pour, en particulier, vos ouvrages. D'une certaine façon, les journalistes scientifiques vous ont suivi, en tout cas. D'abord, ils étaient, comme vous venez de le dire, il y a une règle déontologique dans notre métier, on ne s'appuie que sur des articles à référer. Autrement, ils n'ont pas de légitimité pour qu'on puisse les utiliser dans la divulgation, la popularisation des résultats. Donc, vos travaux sortants, ça a été d'une grande aide. Et là, les gens comme vous, Claude Lorius, comme Jouzel et beaucoup d'autres, comme Hervé Le Treut, j'en oublie obligatoirement, ont pu dire et lancer. Et ça fait longtemps que ce signal a été lancé. En tout cas, on avait l'aliment pour le faire. Et ça a été très important. Cette une aussi, même pour nous, pour vous. Bon, voilà. Et est-ce que je peux dire d'une certaine façon que, à partir de là, étant reconnu sur le plan international, ça va aussi vous aider pour augmenter vos possibilités, je ne sais pas moi, mais de crédit pour d'autres idées, d'expérimentation, d'observation, de grandes campagnes. Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va être d'un secours à ce moment-là? Est-ce que c'est important, ces publications, aussi,
oui,
de ce point de vue?
Quand vous dites la reconnaissance internationale, tout d'abord, elle n'est que scientifique.
Bien sûr.
Donc, en principe, il n'y a pas de...
Bien sûr.
De fonds ou de soutien financier lié. Mais il est devenu, maintenant, les scientifiques ont compris que c'était bien de récompenser les gens qui avaient fait des trouvailles un peu particulières. Et donc là, on entre, après un papier comme Nature, on entre dans deux systèmes. La reconnaissance des institutions, c'est là que j'entre à l'Académie des sciences.
Oui.
Donc ça, c'est vrai, c'est réel, c'est là que j'ai des occasions de rencontrer des gens. Et puis, peut-être ce qui est encore plus valable pour moi, c'est qu'on reçoit des prix.
Oui.
C'est des prix qui ne viennent pas, qu'on n'a pas sollicités. Ce sont des ensembles de scientifiques qui ont des comités concernant l'environnement ou concernant des disciplines plus générales et qui distinguent, je dirais, d'après eux, des travaux qui méritent d'être honorés, non seulement en termes de reconnaissance scientifique, mais en termes de moyens, et aussi de moyens qui m'ont donné les moyens de pouvoir consacrer mon temps, qui m'ont donné des moyens matériels.
C'est ça.
Aussi.
Oui, oui.
Et ces prix, c'est parfois assez extraordinaire.
Et, oui, ce n'est pas des récompenses de vanité, c'est ce que vous voulez
non,
dire.
Non, je veux dire qu'on n'est pas au courant, tout d'un coup, on reçoit un truc. Voilà, vous avez le prix. L'empereur du Japon vous invite à venir à Tokyo recevoir la médaille, et puis les prix avec. Et ça, c'est...
Bah, vous avez, en 89, vous avez reçu le prix Humboldt. Alors moi, j'aime bien Humboldt parce que c'est un grand voyageur, un grand explorateur. Mais c'est aussi un géographe extraordinaire. C'est lui qui, par exemple, trouve le canal du Siar, qui est le seul contre-exemple de toute la planète où deux fleuves majeurs n'ont pas de ligne particulière de séparation des eaux. Voilà. Puis c'est un géographe des plantes et de la situation des plantes en altitude. Et c'est un grand scientifique. Il est un peu comme vous, quoi, d'une certaine façon, Humboldt. Puis après, vous touchez à...
À l'époque, il était... C'est une personnalité extraordinaire.
Oh, oui.
Donc, il y avait une association derrière, et Je crois que c'est le premier prix, effectivement, que j'ai reçu.
89.
Qui m'a beaucoup étonné. Donc, c'était finalement peu de temps après ces travaux qu'on avait menés.
Oui. Il y en a, je ne vais pas lire toute la liste parce que vous en avez reçu beaucoup, mais je retiens ceux qui paraissent en tout cas ou importants ou significatifs et symboliquement importants. Le prix Balzan pour la climatologie, c'est un très grand prix. On peut voir aussi que vous avez eu la médaille du SCAR. Bon, le SCAR, ça vous touche beaucoup parce que c'est un organisme fédérateur des recherches et vous avez eu la médaille. En 2008, vous avez eu la médaille qui s'appelle Blue Planet Prize.
Ah oui, parce qu'au Japon, là.
Ouais. Et on dit que c'est le prix Nobel, c'est ça? L'équivalent du prix
non,
Nobel?
Non, on dit que dans l'environnement, c'est ouais. Le prix le plus coté. Il n'y a pas d'autres Français, par exemple. Et voilà, c'est comme ça. Mais vous savez, il y a d'autres récompenses qu'on ne cite pas souvent et qui font aussi beaucoup plaisir. Pour moi, c'était d'apparaître dans le Petit Larousse illustré.
Oui, j'ai vu ça sur
une liste. Oui, mais entrée, vous rigolez, mais les enfants, ils étaient contents de voir le père
sûr.
Là-dedans.
Mais encore une fois, c'est un symbole même.
Oui, c'est un symbole.
Qui vous dépasse. Claude Lorius, ma foi, tout le monde va évidemment penser carottage, climat, tout ça est lié maintenant, d'une certaine façon.
Oui, mais là aussi, on a des déceptions parce que j'étais à côté d'une femme bien connue.
Dans le Petit Larousse, hein? Sophia Loren.
Oui.
Ah.
Et c'est la bagarre, parce qu'on ne peut pas avoir une photo à chaque nom. Vous croirez, si vous voulez, ils ont choisi Sophia Loren. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais l'année d'après, je n'ai pas l'ordre à changer. J'ai un jour eu ma photo. Non, c'est une plaisanterie, mais à moitié, je veux dire. Je pense que c'est important aussi. Là, on se rapproche quand même du grand public, le Petit Larousse illustré. On a quelques lignes. En tout cas, vous savez bien qu'on aime bien être reconnu, honoré. On n'aime pas être critiqué. Bon, c'est l'homme, ça. Et la femme aussi, d'ailleurs.
En tout cas, on va renouer parce que je trouve que là, c'est aussi symboliquement extrêmement important. Et puis dans le déroulement des travaux et de la compréhension de ces sciences, dans la compréhension donc que peuvent apporter ces sciences du climat, il va y avoir une suite. On a vu ces carottages extraordinaires et à Vostok, mais à Domsé, qui deviendra donc le lieu plus tard de l'implantation de cette base franco-italienne qu'on appelle Concordia. Mais il y a un projet dont vous êtes aussi le promoteur de façon extrêmement ferme. Claude Lorius, c'est le projet EPICA. Et tiens, il va encore se tenir à Domsé. Et si je ne me suis pas trompé dans mon information, alors on retrouve évidemment 10 à 12 pays européens conjugués ensemble dans leurs efforts.
C'est l'European Project.
Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Et cette fois, ce sont carrément 800 000 ans d'archives qui sont révélés. Et pour donner donc la traduction en cycle climatique, ça en fait 5, semble-t-il, cette fois.
Oui.
Quel bond, là encore, dans la compréhension des temps passés, Claude Lorius.
Je dirais qu'on arrive dans une découverte moins fondamentale, mais précieuse. Parce que les chauds et froids d'autrefois n'avaient pas la même amplitude. C'est-à-dire qu'on va arriver à affiner, à rendre plus précises les interprétations. Et ça, c'est très utile, outre le fait qu'il y a une confirmation. Je redis que notre grand culot, ça a été de produire cette série de papiers dans une carotte de glace de 10 cm de diamètre et dire, ça c'est la planète, c'est l'image du climat et du CO2 sur la planète. Et personne à l'époque nous avait contredit, ce que j'aurais trouvé presque normal. Mais voilà, tout ce qui s'est fait depuis le confirme.
Le confirme, bien
et
sûr.
Maintenant, effectivement, c'est EPICA, le plus vieux carottage. Et ce qui est important, c'est que c'est un projet européen. Et ça, ça fait aussi plaisir.
Oui. Alors, d'une certaine manière, en façon de conclusion de cette quatrième station chez vous, avec vous, Claude Lorius, je voudrais vous demander, la dernière fois que vous avez été en Antarctique, c'était à quelle date? Est-ce que vous vous souvenez de la date? 97, je crois.
Oui, c'est enfin la dernière expédition réelle, je dirais.
C'est ça.
Je ne parle pas de croisière ou de choses comme ça. Parce qu'à un moment, physiquement, il faut bien comprendre, quand vous dirigez une équipe, il faut être capable d'être, non pas le meilleur, mais...
Vaillant, très
d'être
vaillant.
D'être vaillant, en forme et tout. Après un certain moment, on sait bien que si on est là, on n'a plus les mêmes capacités. Voilà.
Alors, à vous voir comme vous êtes, moi j'ai encore envie de vous demander, est-ce que ça vous manque pas? Est-ce que vous iriez pas? Vous dites en croisière. Mais est-ce que par moment, vous n'avez pas envie de refaire votre valise? C'est une telle passion. Vous parlez de virus à un moment, du polaire.
Ah, au début, oui, c'est sûr. C'était un virus, ça. Oui, oui, j'arrêtais pas de vouloir y retourner.
Mais encore.
Oui, mais c'est qu'est-ce pas pareil. C'est 80 années. Ouais. C'est l'âge où, depuis un moment, j'essaie de réfléchir.
Ouais.
Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai découvert? Est-ce que j'ai fait des bêtises parfois, est-ce que... Et essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup je me décide à monter ce projet à Vostok. Et vous savez bien que c'est jamais facile d'expliquer des moments de, disons dans mon cas, de grandes décisions, de passer d'une campagne à l'autre. Et ça, c'est... Donc je dirais que c'est un peu le temps de la réflexion. Et que, par exemple, ce genre de conversation, je n'aurais peut-être pas eu avec vous il y a longtemps.
Oui.
J'avais autre chose en tête, je voulais partir, continuer. Et maintenant, j'ai envie de réfléchir et d'aborder ça d'une façon un petit peu plus philosophique, si on peut utiliser ce terme.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Stéphane Delis-Georges rencontre Claude Lorius. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Chantal Nouvelot, réalisation Anne Sécheret, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Delis-Georges avec Claude Lorius.